Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama sur Divergence FM, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque certains micros vont ronfloter comme on dit. En revanche, c'est la première, donc on va se mettre en allure pour cette nouvelle saison. On va tout de suite présenter l'équipe. Bonjour Martin, bonjour Boris.
Bonjour.
Salut, salut.
Et nos invités.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, mais qui êtes-vous donc, voilà.
Eh bien, je suis Thierry, on va dire un chroniqueur rapporté de façon temporaire. Voilà.
Pardon, je te coupe. Et donc moi, Brice, je suis comédien et je suis venu aussi pour apporter mon point de vue sur un film. Voilà.
Ok, donc ce sera un peu plus tard dans l'émission. On va développer le sommaire, peut-être en parlant de ce petit débat avec toi, Boris.
Oui, donc en deuxième partie d'émission, effectivement, on va se retrouver en fait à parler un petit peu d'Inglourious Basterds, le dernier film de Tarantino. Si je ne me trompe pas, si je n'ai pas perdu mes tables d'arithmétique, je crois que c'est son sixième film. À cette occasion, on va un petit peu changer peut-être le mode opératoire qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire une table ronde autour de ce film. Donc Brice et Thierry ont vu le film, ont aimé certains points, n'en ont pas aimé d'autres. Martin a vu également le film et il ponctuera évidemment cet échange de quelques petites interventions croustillantes, j'imagine. Et voilà, donc ça sera en deuxième partie d'émission.
Et avant, donc, on pourra écouter les hurlements de Léo. Je vais avoir du mal avec ce micro. Les hurlements de Léo avec notamment son violoniste que j'ai rencontré il y a peu. Il faisait un concert au mois d'août du côté du Mas des Ministres. Et donc, j'en ai profité pour leur poser des questions sur savoir quel cinéma ils aimaient et comment ils avaient fait connaissance avec le cinéma. Donc, on écoutera ce petit son. Et puis, je vous parlerai des derniers jours du monde, mais ce sera en toute fin d'émission, le dernier film des frères Largueux. Et on va commencer avec toi, Martin.
Oui, alors bonjour à tous, bienvenue sur Cinérama pour cette nouvelle saison. Alors moi, je vais vous parler cette semaine de Un prophète de Jacques Audiard. Donc voilà, pour bien commencer l'année, en hommage à tous ceux qui reprennent le boulot ou l'école après la traditionnelle évasion estivale et qui vont se retrouver enfermés dans un bureau ou dans un amphi pour le reste de l'année, et je vais vous emmener faire un petit tour en prison. Voilà, donc le film est sorti il y a 2 semaines, il est toujours à l'affiche. Et il avait déjà fait parler de lui en mai dernier, en passant de peu à côté de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, et en repartant quand même avec le Grand Prix, ce que beaucoup de journalistes avaient attribué au fait que la précédente Palme était déjà française, et que une telle décision de la part d'Isabelle Huppert aurait pu être mal interprétée par les compétiteurs internationaux de Palme française d'affilée, ça faisait peut-être beaucoup. Mais bon, vaut mieux un Grand Prix du jury de haute volée, une palme d'or, petit bras, enfin bon, on n'a pas vu encore le film de Haneke, mais nous verrons, on en parlera sans doute dans Cinérama. Alors, l'histoire de Un prophète, on va suivre donc pendant 2h30, 2h40, presque le parcours d'un jeune homme, Malik El Djebena, qui est condamné à 6 ans de prison pour un crime dont on ne saura à peu près rien. Et le film va retracer son ascension au sein de cet univers clos et violent dans lequel la petite frappe analphabète qu'il était va petit à petit se faire une place et un nom grâce à ses capacités d'adaptation et à sa ruse. Alors très vite, le personnage est confronté à la dure loi de la prison qui veut que sans protection, un nouvel arrivant ne fait pas long feu. Et Malik va donc devoir faire ses preuves et commettre son premier crime pour le compte d'un co-détenu, une sorte de parrain de la prison, auquel obéissent aussi bien les prisonniers que certains matons. Et donc cet acte traumatisant, ce meurtre, sera la première pierre de la métamorphose de Malik entre ses murs. Alors le nouveau film du réalisateur de Regarde les hommes tombés et de Sur mes lèvres, donc deux films, je pense Boris vous fera un tout petit topo après ma chronique sur les précédents films de Jacques Audiard. Donc ce nouveau film est à mon avis le film à ne pas rater en ce moment au cinéma. Donc des choix artistiques au casting, en passant évidemment par l'histoire qui nous est racontée, et tout dans Un prophète mérite qu'on prenne le temps d'aller le voir. Alors déjà, le lieu dans lequel on va être plongé pendant la quasi-totalité du film, eh bien à lui seul, c'est un véritable personnage de l'histoire. Donc il a été construit intégralement au moment de la pré-production, et cette prison en dur va devenir le théâtre plus vrai que nature de cette saga immersive. Et donc ce choix de construire ce décor et d'y plonger l'équipe jour après jour sans être contraint ni par des questions d'horaire ni par des questions de disponibilité, eh bien ça change profondément le processus de création. Audiard a par exemple déclaré dans une interview que ce choix avait modifié sa manière de fonctionner, que le jeu des comédiens, les positions et les mouvements de caméra et même l'organisation d'une journée de travail avait été influencée par ce parti pris. Par exemple, au lieu de mettre en place la figuration après avoir travaillé avec ses comédiens comme il le fait d'habitude, le réalisateur s'est rendu compte qu'il était préférable d'inverser cette façon de faire et de mettre en place le fond avant les comédiens principaux pour mieux faire naître la spontanéité, la justesse chez ces derniers. Et ce parti pris peut également être ressenti par le spectateur au moment de la vision du film, parce que lors de la prise de vue, les murs du décor ne pouvaient pas être déplacés à loisir comme dans un studio de cinéma, et les axes de caméra ne changent donc que très rarement. Chaque lieu est filmé selon un ou deux angles, et cette fixité du point de vue donne au film un aspect statique, immuable, presque claustrophobe, qui colle très bien au milieu carcéral qu'il décrit. Alors un autre intérêt de ce film, c'est bien entendu son casting. Les comédiens qu'a choisi Audiard sont tous excellents. Ils viennent peupler avec une justesse et une force étonnante cette prison de cinéma. Un coup de chapeau en particulier à Nils Arestrup dans le rôle de César, donc ce petit parrain corse qui dirige d'une main de fer son empire de poche. Donc sa trogne de vieux briscard, son regard profond emporte l'adhésion aussi bien quand il est en position de force, comme un vieux lion invincible, qu'en position de faiblesse où il redevient le vieillard pathétique et solitaire qu'il est en réalité. Mais bon, la révélation d'un prophète, c'est bien sûr le jeune Tahar Rahim qui interprète Malik, dont c'est le premier grand rôle au cinéma et qui porte littéralement le film sur ses épaules. Alors on n'ira pas jusqu'à le comparer à Al Pacino dans le Scarface de De Palma, il ne cabotine pas assez pour supporter la comparaison. Et le personnage en plus est une sorte d'antithèse de Tony Montana. Mais bon, Tahar Rahim nous livre quand même une interprétation mémorable, à rapprocher peut-être de celle que nous avait offert Vincent Cassel dans le diptyque Mérine sorti l'année dernière. Bon, la sensibilité et la fragilité en plus. Alors les autres comédiens sont eux aussi très bons, en particulier Reda Kateb qui joue Jordi le Gitan et Adel Ben-Sherif qui joue Riyad, donc le premier véritable ami que va se faire Malik en détention et qui va avoir un rôle important dans l'évolution du personnage. Alors pour en finir, quelques mots sur la construction de ce film et sur le scénario qui s'éloigne assez radicalement de ce qu'on pouvait attendre d'un film carcéral. Donc si un prophète se déroule en prison, on aurait aussi pu imaginer un autre cadre pour cette histoire d'initiation. Cette ascension d'un petit malfrat qui gagne petit à petit ses lettres de noblesse et sa respectabilité. Donc le film de Jacques Audiard se veut autant un film de gangster qu'une saga individuelle dans un cadre particulier. On est donc plus proche de Scarface, du Parrain ou de Blow, de Ted Dem, que des évadés ou de Zonzon. Donc le scénario est construit à partir d'une histoire développée par Abdel Raouf Dafri, qui avait déjà écrit les scénarii des films Mesrine, justement. Et le récit joue sur plusieurs tableaux. Donc le film alterne les scènes de la vie quotidienne en prison et les péripéties, mais il ménage aussi quelques surprises à la lisière du fantastique, avec des scènes de rêve ou d'hallucination assez étonnantes. Donc au départ, le personnage de Malik, c'est vraiment la feuille blanche. Hein. Il n'a pas de passé, pas de famille, pas d'amis en dehors de la prison, pas d'éducation. Et c'est le parcours qu'il va faire entre ces murs qui va lui donner de l'épaisseur, de la densité, qui finalement va le construire. Donc Malik est une sorte de centre de gravité qui va petit à petit attirer à lui tout un monde de personnages et de rapports de force, une sorte d'éponge, et qui, à force de prendre de l'importance, va finalement devenir le centre de cet univers. Mais bon, malgré cette focalisation sur le personnage de Malik, Audiard arrive aussi à donner leur place aux autres personnages secondaires, qui sont tous absolument nécessaires à l'histoire. Le personnage de César, par exemple, qui lui aussi va passer par différents stades d'évolution pendant le film. Voilà, donc à part ça, je vais laisser le soin au cahier du cinéma de proposer une explication au titre du film Un prophète, hein, qui peut être interprété de bien des manières. Mais je tiens quand même à préciser que le thème de la religion n'occupe pas une place importante dans l'histoire. Hein. Si le personnage est d'origine maghrébine, il n'est pas du tout pratiquant de l'islam. Et son parcours ne correspond ni à une sorte de passion christique, ni à la découverte d'une vérité divine et éternelle. En fait, l'apprentissage de la vie ne passe pas par l'interprétation des codes religieux, mais plutôt par l'adaptation aux codes de la pègre. Ce n'est qu'à force de stratégie, de résilience et d'astuces que Malik va accéder enfin à une vie plus confortable et moins désespérée. Voilà, donc un film dense, comme cette chronique pour commencer l'année, et superbement construit, à mon avis, hein, qui relève le niveau du cinéma français, qui est gangréné depuis trop longtemps par la frilosité des producteurs et des cinéastes. Et bon, Jacques Audiard est décidément un grand cinéaste, et son film, ben, même s'il a une durée que certains trouveront excessive, eh bien c'est presque un sans faute. Trigger and the mind is on the plan. I got my prescription and every citizen's got his. Now join me in the Rubicon and paddle me to France. The nectarine is sweeter there and we ain't got a chance round here. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. I'm looking at the goddess of the hunt. Staring at the moon. My friends ain't got no loving, and the babies ain't got teats. The women are all busy getting smart out on the streets, and there ain't none. And the gentleman from Kansas is fixing to retire, drinking with his right-hand man, speaking about the fire and the doom. Car horn sound blows loud and hits my naked ear like a harpoon. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. I got enough to get to Memphis, but not enough to get me home. Where some men see a ladder, some men see a throne to repaint. Said to the senator, is this deep genuine? He said, I ain't seen that kind of thing since 1999, and it ain't. I saw John Brown going down a mighty road to heaven on a mule. I stood aside and waved goodbye, blind, out of sight, out of fuel. Voilà donc un petit extrait de la bande originale du film Un prophète de Jacques Audiard. C'était Turner Cody, Corner of My Room. Voilà.
Oui, puisqu'il est question de la prison, effectivement. Exactement. On en traduit facilement. Juste ajouter que moi aussi, j'ai vu Un prophète hier et que, et que j'ai trouvé ce film absolument captivant. Donc la question de la longueur, effectivement, c'est pas du tout posé. Après, juste une petite invraisemblance vers la fin qui, moi, m'a fait tiquer, mais bon, on peut passer au-dessus. Donc on n'en parlera même pas. Et voilà. Sinon, beaucoup de vraisemblance, j'ai l'impression, dans ce scénario. J'ai même été étonné de voir une prison plutôt... Pas libre, hein, on va mettre plein de guillemets forcément, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus la présence des matons. Et là, il nous a montré un univers carcéral où finalement, il y a certaines libertés de déplacement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, oui, mais c'est... moi, j'ai trouvé ça assez étonnant pour la première fois d'ailleurs au cinéma.
Audiard avait déclaré quand même que ce n'était pas du tout un documentaire, que c'était vraiment une prison de fiction. Et c'est assez intéressant cette idée. En fait, le film démarre où lui, il est juste un détenu comme les autres. Il ne peut pas se déplacer de sa cellule. Pareil, la caméra va garder des points de vue très fixes, comme je disais. Et au bout d'un moment, il passe oxy, après avoir...
auxiliaire,
après avoir rendu service au petit parrain de la prison. Et à ce moment-là, lui-même, il va être libre de ses déplacements. Et pareil, la caméra aussi va être plus libre. Et en fait, cette prison perd un peu sa puissance. Enfin, il n'a plus vraiment d'intérêt... plus vraiment de pouvoir de maintenir les détenus en place, puisqu'ils peuvent se déplacer vraiment librement. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point assez intéressant dans le film, montrer que même c'est une prison, mais à l'intérieur, ils arrivent à être quand même suffisamment libres pour faire ce qu'ils veulent, pour avoir leur propre loi, pour mettre les matons ou pas quand il le faut, etc.
Alors ça aussi, il y a la relation entre les matons, effectivement, et ce parrain. Après, bon, il y a tout ce qui circule dans une prison, mais ça, on le savait déjà, hein. Enfin, tout ce qui est stupéfiant... et puis même du Coca-Cola, enfin on va pas jusque là, mais non, mais c'est anecdotiquement c'est montré dans le film en fait, ouais. Hein, voilà. Et après il y a toute l'ambiance aussi, enfin je pense que c'est vraiment un grand réalisateur, il arrive à tout, enfin avec tous ses films à installer une ambiance quoi qui nous permet de nous fondre et de le suivre complètement, enfin dans un univers qu'on ne connaît pas forcément. C'était le cas aussi je pense sur son film précédent Sur mes lèvres dont tu vas sûrement parler, Boris.
Ouais, c'est De battre mon cœur s'est arrêté, mais
ah oui, oui. Le dernier
en date. Non mais à ce propos en fait c'est est-ce que par contre justement dans ce film il y a ce truc qu'on retrouve souvent dans les films de prison avec voilà quoi, le côté un peu violent du quotidien avec la confrontation entre les différents prisonniers, les effets de gang aussi qui amènent
ça oui, les effets de gang c'est assez fort, il y a vraiment les Corses contre les Arabes et Malik qui hésite entre les deux, qui commence par aller chez les Corses qui peut paraître un peu bizarre et qui finalement se met plus ou moins tout le monde dans la poche à force de services rendus. La violence, oui, le film est assez violent, surtout certaines scènes bien précises. Moi, je m'attendais à une violence un peu plus dure à regarder. J'ai trouvé que c'était... Enfin, ça peut être regardé par beaucoup de monde, bon, peut-être pas les personnes les plus sensibles. C'est vrai que c'est psychologiquement, c'est assez dur. Après, au niveau de la violence graphique, il y a quelques scènes, mais c'est pas non plus un point central du film.
Non.
Non mais en fait on a tous une question quand même à l'esprit, c'est que finalement Jacques Audiard, est-ce que c'est bien le fils du réalisateur Michel Audiard? Donc la réponse vous la connaissez peut-être, je sais pas.
Non,
vous la connaissez
si,
pas
si, si, si.
Bah c'est oui en fait, hein, c'est bien, voilà, donc c'est bien son fils. Donc sinon Jacques Audiard, oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Déjà il est né hein, en 1952. Et puis qu'est-ce qu'il nous fait? Il se destine dans un premier temps en fait au professorat, mais voilà, il entame donc des études de lettres qui rapidement échouent. Et c'est à ce moment-là qu'il se décide de se lancer en fait dans le cinéma où il débute en fait en condition de monteur. Alors, il a réalisé donc par la suite, il écrit un certain nombre de scénarios pour des courts-métrages, des plus longs, parmi lesquels on peut citer Réveillon chez Bob, Mortelle randonnée, Baxter, Fréquence meurtre et Saxo. Et en fait, il faut attendre 94 pour le voir passer en fait à la réalisation de longs métrages, enfin à la réalisation donc à proprement parler, avec donc Regarde les hommes tombés. Donc c'était un sombre road movie qui mettait en scène deux hommes que tout sépare. Donc il y avait Mathieu Kassovitz et puis Jean-Louis Trintignant. Alors ce film a remporté un César du meilleur premier film, donc ce qui était quand même assez assez prometteur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Il retrouve finalement Mathieu Kassovitz 2 ans plus tard pour son second long. Donc c'est un héros très discret qui lui prend à Cannes le prix du meilleur scénario en 96 et qui en fait était une adaptation du roman homonyme de Jean-François Deniaux. Alors celui qui se considère donc comme un artisan du cinéma mais a par la suite 5 ans pour réaliser son film suivant, donc Sur mes lèvres, une histoire d'amour donc sur un fond de polar noir avec Emmanuel Devos et Vincent Cassel. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut noter en fait chez Audiard. Effectivement entre chacun de ses films il y a vraiment vraiment de l'attente, il y a à peu près 3-4 ans à chaque fois entre chacun de...
Ouais, il prend le temps à chaque fois de mûrir ses projets quoi.
Ouais, c'est à chaque fois, ouais voilà c'est ça. Et puis après il faut voir aussi que justement Audiard c'est quand même un créateur et qui va regarder de près en fait un peu tous les éléments constitutifs d'un film, que ce soit donc la bande son, bien sûr le cadrage, la lumière, tous ces trucs là il travaille de très près donc avec des techniciens et puis des opérateurs en fait qu'il choisit avec soin. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois ça lui prend un temps fou pour orchestrer tout ça, sachant bien sûr que encore une fois Jacques Audiard c'est un scénariste aussi à la base et qu'il écrit, enfin il passe aussi beaucoup de temps à huiler son script. Alors ça c'est assez intéressant parce que il s'était sur mes lèvres en fait donné les moyens en fait de travailler avec un autre scénariste qui est depuis assez connu, c'est Tonino Benacquista, et qui a donc participé grandement à la réussite de Sur mes lèvres en fait. Donc grosso modo pour sa filmo. Bon, bien sûr, je vais parler pour finir voilà cette petite filmographie loin d'être exhaustive dans le sens du détail hein, évidemment parce que je fais vite du film qui pour moi est son meilleur jusqu'à présent parce que je n'ai pas encore vu Le Prophète. C'est donc De battre mon cœur s'est arrêté où là il se payait le luxe donc de mettre dans son casting Romain Duris donc qui était vraiment excellent pour camper en fait un individu en fait un peu torturé entre une mère donc décédée et qui était artiste, pianiste plus exactement, et puis un père lui qui était en fait agent immobilier.
Ouais. Il est alcoolique hein, son père hein.
Notamment, mais même lui aussi. Enfin, voilà, c'est aussi un des traits de dire de toujours avoir une ambiance assez sombre sur les caractères humains en fait en présence. Mm-hmm. Et bon, ben voilà, c'est souvent des personnages torturés, plus ou moins alcooliques, plus ou moins violents. Enfin, ambivalents, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça, ce film-là, il est sorti quelque chose comme 2004-2005. C'est un film qui est vraiment incroyablement bien fichu. Et puis, encore une fois, il y a une histoire de bande-annonce, punaise, une bande-son, mais décidément, j'adore les bandes-annonces, en fait, c'est ça, je crois. Mais voilà, et c'est ça aussi qui est donc super, super intéressant, parce que voilà, il y a encore une fois la bande-son donc, est très nourrie et colle vraiment au film, hein, une espèce d'échange hein, entre sa mise en scène et le son. Donc voilà.
Et juste une petite précision, alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a une notoriété publique, on va dire, que Audiard est très 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 exigeant en fait au niveau du jeu des comédiens, que bon, il est un petit peu dans la veine de Kubrick, où il pousse ses comédiens souvent dans leur retranchement en fait, pour pouvoir leur faire sortir des choses très vraies et très profondes. Quoi.
Mais ça se ressent, oui, particulièrement dans Un Prophète, le casting, enfin il n'y a pas une fausse note quoi, chez les comédiens. Après moi c'est le seul que j'ai vu, c'est pour ça que je t'ai laissé faire la petite filmo, mais en effet c'est un film qui m'a donné aussi envie de me plonger dans tous les autres longs métrages qu'il a pu faire. Donc voilà, Un Prophète, un film à aller voir, au Diagonale actuellement, peut-être un peu partout, il faudra attendre le 30 septembre pour le voir à Utopia. Voilà, et pour enchaîner, tu voulais intervenir, Vincent ?
Non, absolument pas, non, j'attendais que tu enchaînes sur ce fameux quiz, puisque on innove une nouvelle...
C'est pour bien commencer l'année, donc...
Il n'y a que des nouveautés, quoi, c'est génial.
Comme je vous l'avais annoncé, donc c'est un petit hommage à ceux qui vont reprendre le boulot et qui vont se retrouver derrière des barreaux pendant toute l'année. Je vous ai préparé un petit quiz sur les films de prison, voilà, puisque Un Prophète peut être classé parmi les films de prison. Alors on va commencer par des petites charades ou des petites énigmes. On va commencer simple, hein. Si je vous dis problème de digestion... Christophe Lambert.
Highlander.
Un film de prison.
Moi, j'en connais qu'un, c'est Fortress.
Fortress, voilà. Donc, vous comprenez le principe, c'est assez simple, c'est assez basique. Si je vous dis Steve McQueen.
La Grande Évasion.
Bien, Vincent. Si je vous dis Steve McQueen.
Papillon.
Dur.
Non, je sais pas.
Et si je vous dis Noah, je proteste.
Oui, Steve McQueen, oui, Hunger,
tout à fait, ouais, très bon Vincent sur les films de prison.
Mais je l'ai vu.
Mais ça c'était un sacré piège, Steve McQueen et Steve McQueen, oui, c'est sournois.
Je me suis fait avoir.
On va enchaîner, alors j'ai quand même fait un petit peu de travail sur ce quiz, je vous ai préparé quelques petits sons, quelques petits blind tests aussi, donc on va commencer avec un premier blind test, c'est une musique de film que vous devriez reconnaître. Alors, des idées ?
Non. Oui, moi je vois tout à
Vincent
fait.
Vincent a trouvé.
Donc c'est Midnight Express.
Tout à fait, de Alan Parker.
Et la musique, c'est Mike Oldfield ou non ?
C'est Moroder.
Ah bon,
ouais, Giorgio Moroder, je crois.
Moi j'ai vu Midnight Midtrain, mais ça n'a rien à voir.
C'est pas un film de prison. Non. Alors bon, continuons avec des petites charades. Voilà, c'est le mot. Si je vous dis des multinationales qui gèrent les prisons. Si je vous ai dit Jason Statham.
Hein, la course de la mort de l'an 2000.
Tout à fait, le remake, bien joué Thierry. C'était donc Course à la mort de Paul W.S. Anderson, dans lequel les prisons sont gérées par des grandes entreprises et qui font des jeux violents pour les vendre sur Internet. Alors, une autre, si je vous dis Takeshi Kitano. David Bowie.
Furio.
Furio, très bien Thierry, il remonte, il talonne Vincent.
Mais quel est le Takeshi Kitano? Oui, là
il joue dedans.
Ah, voilà, il joue dedans avec
Furio de Oshima.
Voilà, Nagisa Oshima, et c'est Merry Christmas Mr. Lawrence en version originale, traduit par Furio donc. Alors on va passer à un deuxième blind test, alors c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une ambiance sonore, j'espère que vous allez trouver.
Il y a Thierry, ouais, qui...
Alien 3. Alien, ouais.
Alien 3. Non,
ouais.
Ce n'est pas Alien 3, mais ça se rapproche, c'est bien tenté. Voilà, c'est une prison un peu particulière, puisque c'est pas vraiment une prison. C'est composé de plusieurs pièces, il y a des pièges dans ces pièces.
Un cube.
Voilà. Il s'agissait de Cube le premier, donc de Vincenzo Natali. On fait un dernier petit blind test. Ou non, tiens, je vais vous poser une charade d'abord. Donc si je vous dis Stephen King, Couloir de la mort, La ligne verte, excellent, excellent. Ouais. Et si je vous dis Stephen King, Tim Robbins,
Les évadés.
Thierry remporte haut la main ce petit quiz.
Comment ça, haut la main?
Bon, pour vous départager, on va écouter donc le dernier petit son que je vous ai préparé. C'est parti.
Los Angeles 2013.
Tout à fait.
Eh ben Thierry.
Ouais, Thierry, t'as gagné. Ouais.
Nous avons un accord. Ouais,
Thierry, punaise.
Donc dans ce film de John Carpenter, excellent, qui raconte comment Los Angeles, après un tremblement de terre, s'est séparé de la côte américaine et est devenu une prison pour les rebuts de l'humanité que les États-Unis ne supportent plus sur leur sol. Voilà, donc un film à voir.
Et moi, j'en avais un dernier, en fait, que j'ai préparé, parce que je savais que tu allais faire ce quiz, donc on écoute, ce sera forcément un peu moins facile.
Le grillage du chalet me fournit une quarantaine de mètres de fil de fer souple et solide. Toujours avec du fil de fer, je façonnais trois boucles que je fixais au talon de chaque crochet. Je fis des tresses comme j'avais vu ma mère faire avec les cheveux de mes sœurs. Tout y passa, je ne gardais qu'un mouchoir.
Cette occasion-là, c'est pas moi qui l'aurai.
Et si tu l'avais? Par exemple, en allant à l'interrogatoire. Que ferais-tu?
J'en profiterai, je m'échapperai.
Tu crois?
Oui.
Eh oui, un petit blanc qui suit après, mais qu'est-ce que
c'est?
Donc là, c'est un vieux film, hein, forcément. Personne n'a trouvé. Je vous donne des indices ou pas? Enfin, je t'en ai parlé un peu, toi, Martin.
Moi, je sais la réponse, ouais. Mais je ne soufflerai pas.
Alors, son nom, c'est Robert Bresson, le réalisateur, qui aurait fait quoi, donc? Personne ne sait. Une fois, deux fois, trois fois, c'est un condamné à mort s'est échappé. C'est un film de 53, donc c'est l'histoire d'un homme, effectivement, qui, comme le titre l'indique, va s'échapper de la prison, et on voit très méticuleusement bien comment il va faire, et là, c'était une partie de l'explication. Voilà, donc il échafaude un plan, et tout le film, c'est ça, avec des plans très très serrés à la Bresson, enfin, pour ceux qui connaissent un peu ce grand styliste du cinéma, voilà. Eh ben, le quiz est fini.
Voilà, on va peut-être sortir de prison maintenant.
Ouais.
Prendre l'air.
Et on va aller écouter bien les hurlements d'Euro, notamment Vincent qui est violoniste dans ce groupe que j'ai rencontré il y a peu. Vincent a été une projectionniste avant d'être musicien. On écoute ses choix cinématographiques et après on revient donc avec ce grand débat sur Inglorious Bastards et Cinérama, session Divergence.
Bonjour, alors moi c'est Vincent et je joue du violon et du saxo dans les Hurlements de Léo.
Voilà, alors la question de la soirée, c'est de savoir quel est le rapport au cinéma avec le groupe Les Hurlements de Léo. Il n'y en a pas forcément d'ailleurs.
Ben à la base, il n'y en a pas du tout même, quasiment.
Alors sinon, après c'est votre rapport, vous Vincent, en tant que violoniste des Hurlements de Léo, votre rapport au cinéma. Comment vous avez découvert le cinéma et comment vous le consommez? Même si c'est un vilain mot.
Mais moi, je l'ai découvert à l'école. Parce que à l'école, tous les mercredis du mois, une fois par mois, on allait faire des séances scolaires, comme on appelle ça. On appelait ça. Donc, on a vu plein de films super bien, de No Man's Land au Ballon d'Or, à Bloody Sunday et compagnie. Tout. Depuis la fin du primaire jusqu'au collège. Puis après, j'ai arrêté les cours à la fin de mon bac. Et j'ai eu une occasion de travailler en tant que projectionniste dans un cinéma associatif. J'ai fait ça pendant 4 ans. Vraiment super route. C'était super bien. Donc je me suis rempli la tête de films pendant 4 ans. Et puis voilà, et après j'ai enchaîné par la musique.
Alors comment ça se passe quand on est projectionniste? Parce que quand on est projectionniste, on est quand même dans une petite cabine, on voit le film à travers la lucarne.
Ah ben, moi ce que je faisais, c'est une fois que de toute façon La première fois de la semaine, une fois que le film est monté, on le lance, on le regarde en entier, si ça va, eh bien, il y aura un peu moins de surveillance après. Quoi, mais, il y a beaucoup d'attentes, bah, faut prendre des livres. Parce qu'au bout de 5-6 fois, le film, voilà, c'est joué.
C'est clair. Et sinon, dans vos attentes cinématographiques ou dans vos choix cinématographiques, vers quoi vous vous tournez?
Ce que j'aime en premier, c'est le cinéma social, dans le style de Ken Loach un peu. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait.
Je jure solennellement que je ferai tout mon possible pour soutenir et défendre le gouvernement de la République d'Irlande contre tout ennemi provenant ou non du pays. Je m'engage librement à cette contrainte en pleine possession de mes moyens et sans volonté d'y renoncer.
Après, tout ce qui est... Alors, le cinéma français, il y a quelques trucs super bien, mais j'aime vraiment pas tout. Toutes les comédies, tout ça, ça j'ai du mal. Après, tout ce qui est le cinéma d'auteur iranien ou...
نه این که نفهمی میفهمی من چمه اما حسش نمیتونه بکنی
tout ce qui passe un peu dans les chaînes de l'Utopia film un peu d'auteur comme Gus Van Sant tout ce qu'il fait un peu contemplatif des fois sur les bords
ouais, par exemple Last Days, voilà, si on prend cet exemple
Last
de Gus Van
Sant, Last Days, c'est un des rares que j'ai pas vu, c'est dommage, sur la vie de Kurt Cobain,
oui, enfin, grosso modo.
Ok. Non, moi j'ai plus vu dans les éléphantes, ces effets de style de caméra qui fait. Tu suis une personne et dans une scène d'après tu suis l'autre personne et tu croises la personne que t'as suivie, mais il n'y a pas de caméra derrière. C'est des prouesses techniques que j'aime bien regarder. Après je suis pas trop dans le détail parce que je suis pas un professionnel du cinéma non plus. Voilà.
Mais voilà, mais en bossant 4 ans quand même dans un cinéma, ça veut dire que quand même vous avez un certain regard sur le cinéma. Et pour le coup, si vous aviez un film fétiche, vraiment, un seul. Enfin, un seul ou plusieurs, parce qu'un seul, c'est trop dur.
Bon, on va dire My Name is Joe de Ken Loach.
My name is Joe, and I am not an alcoholic. And I'm no stupid. I take one day at a time, and I just hope I get through it.
J'ai vraiment beaucoup aimé Jean Noir Chat Blanc quand il est sorti.
Aimé Costa Rica.
Des Costa Rica. Après, dans un tout autre genre, j'ai pas mal aimé aussi la trilogie des Seigneurs des Anneaux, bon, un peu longuée sur les bords, mais c'est quand même assez magnifique.
Nous sommes perdus. Je ne crois pas que Gandalf s'attendait à ce qu'on passe par là.
Il y a beaucoup de choses auxquelles il ne s'attendait pas.
C'est impossible.
Voilà, à peu près, on va dire ça.
Donc des films plutôt contemporains quand même, hein, ouais. Enfin plutôt modernes.
Et après dans le tout ce qui est Buster Keaton, je suis vraiment fan de ce qu'il faisait aussi. Tous les cascadeurs burlesques là, c'était vraiment grand aussi.
Bon, ben merci.
Ben, avec plaisir.
Voilà. Et bien voilà, donc c'était Vincent, il s'appelait, voilà, des Hurlements de Léo. On écoutera la semaine prochaine, puisque c'est une nouvelle rubrique aussi, on écoutera la semaine prochaine, et bien cette fois-ci, le chanteur-guitariste des Hurlements de Léo, qui parlera lui aussi cinéma, puisqu'il voit un film par semaine du côté de Bordeaux et de l'Utopia. Voilà, on passe au grand débat maintenant de Cinérama.
On passe au grand débat tout de suite. Voilà, donc match de boxe, hein, donc pour aujourd'hui sur Cinéma à 4.
À
4, Martin, il est là aussi.
Il n'y a que toi, Vincent, finalement, qui ne l'a pas vu.
Oui,
mais tu pourras nous faire partager quand même ton senti.
Ouais, d'autant que ça va être, on va peut-être un peu franchir les barrières, les limites quoi, du film, du dernier film de Tarantino, peut-être pour parler aussi un peu de notre cher Tarantino. Alors, voilà, donc Inglourious Bastard, c'est donc son 6e film. Martin me disait tout à l'heure que, en fait, c'est son 7e film. C'est vrai, parce que moi, j'ai toujours tendance à mettre Kill Bill dans le même sac. Kill Bill 1 et 2, donc pour moi, c'est le même film. Enfin, c'est le film en deux parties, voilà. Donc, pour Inglourious Bastard, de quoi parle ce film ? En fait, c'est donc un film qui détient déjà donc une assise, une sorte d'assise historique, puisque on se situe donc dans la France occupée en 1941. Et en fait, on va assister, grosso modo, à une histoire en fait de vengeance. Alors cette vengeance, ça va être celle de Shoshana, qui va échapper en fait de peu au massacre de sa famille juive, donc planquée dans la cave d'un éleveur, producteur de lait, qui est Monsieur Pierre Lapadite. Alors par la suite, on va la retrouver en fait sur Paris, où elle sera arrivée à la tête en fait d'un petit cinéma.
Et où elle aura 4 ans après.
Ouais. 4 ans, c'est ça. Ouais. Elle va changer de nom. Et c'est dans ce petit cinéma qu'elle va se mettre à redire en fait son plan de vengeance qui est destiné à décapiter le régime nazi de ses dirigeants, rien de moins. Donc le système de direction qui est composé donc de Hitler, Göring et Goebbels, plus une quatrième sommité, je me souviens plus peut-être.
Martin Bormann.
Voilà. Donc ça c'est en gros l'histoire de Inglourious Bastard. Mais là, ce qui vous surprend, vous donc auditeur de Cinérama qui n'avez pas encore vu ce film de Tarantino, c'est que finalement de Bastards, il y en a pas quoi. On en a pas spécialement. Ouais. Alors, on se pose tous la question à savoir ce qu'ils sont devenus, parce que c'est vrai que dans que ce soit au niveau des bandes annonces ou bien même des affiches, on voit Brad Pitt qui incarne donc le lieutenant Aldo Lapache qui est à la tête donc d'un commando de 8 soldats juifs américains, et ça on ne sait pas. Alors moi je pense les avoir retrouvés, tout au moins Aldo.
Ten hot, eyes forward. My name is Lieutenant Aldo Ray, and I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis.
Yes, sir!
Members of the National Socialist Party have conquered Europe through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're gonna do to them. We will be cruel to the German. And through our cruelty, they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. The German will not be able to help themselves from imagining the cruelty their brothers endured at our hands, and our boot heels, and the edge of our knives. And the German will be sickened by us. The German will talk about us. And the German will fear us. Nazi ain't got no humanity. They need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps.
Nine, 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 nine.
Sound good?
Yes, sir!
Voilà, donc vous avez pu entendre Aldo Lapache, donc interprété par Brad Pitt, et je l'ai mis forcément en anglais, puisque la version française enlève complètement le travail qu'il a fait sur cet accent limite texan, assez intéressant, en tout cas qui donne du cachet à son personnage. Qu'est-ce qui se passe en fait par la suite
Juste pour revenir sur ce que tu disais, tu disais comme quoi on voyait pas trop les bastards en fait. Je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où le film est équilibré entre l'histoire justement de ce groupe, ce commando, et le colonel aussi, tu vas en parler après je suppose, mais le colonel nazi en fait, voilà,
ouais, Hans Landa,
voilà, qui est réputé pour être un chasseur de juifs en fait, et c'est un peu équilibré entre son histoire à lui, l'histoire des bastards et
Donc oui, c'est en fait c'est vrai que voilà, il va y avoir donc parallèlement en fait ces deux étapes qui sont vraiment centrées sur cette histoire de vengeance. Il va y avoir donc d'un côté Shosana qui va ourdir sa vengeance. Et Tarantino va mettre en œuvre justement l'organisation de ces bastards à côté, qui sont donc en fait voilà quoi des soldats comme je le disais tout à l'heure juifs américains qui se retrouvent
juifs allemands aussi, enfin il y en a
ouais il y a aussi des juifs allemands qui se retrouvent c'est ça ouais
qui sont un peu barrés tous d'ailleurs.
Ils se retrouvent en fait derrière les lignes de la France occupée en fait, et puis c'est là où ils lancent en fait leur petite guérilla quoi. Et en fait, ce qui va se passer dans le film, c'est que effectivement, il va y avoir de chez Churchill en fait une mission donc d'élimination d'Hitler et de ses sbires qui va être décidée et qui va compter en fait sur ces bastards pour justement arriver à leur fin. Et ceci se passant donc dans le petit cinéma de Shosana. Donc ça c'est en fait l'intrigue de base du film, c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous allez observer. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un scénario. Enfin, Tarantino a employé un scénario assez nourri, assez bien fichu, pour justement par le biais d'une succession et bien de coups du sort, coups du hasard, arriver en fait à ce que tout le monde se retrouve dans ce petit cinéma. Et que là, finalement, ça parte en live complètement. Donc, en fait, le film de Inglourious Basterds, il va être divisé en 5 parties, sous forme de 5 chapitres, un peu comme a toujours fait Tarantino. Donc, 5 parties qui vont reprendre les différentes étapes dont on vient de parler. Et alors, par contre, moi, voilà, j'ai envie d'exprimer ceci, c'est-à-dire que pour moi, les deux premières séquences sont vraiment les plus intéressantes, les plus abouties. Donc, dans la première de ces séquences, il va y avoir en fait une ouverture un peu inspirée, où Tarantino va citer un peu Léon.
C'est carrément un décalque.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est l'arrivée dans Le Bon, la Brute, le Truand de Lee Van Cleef
avec le gros clin d'œil, il était une fois dans la France occupée.
Voilà, donc ça va être la première partie qui va être donc assez intéressante. C'est là où on va à la fois donc assister au massacre de la famille de Shosana, mais également c'est là où on va découvrir en fait le personnage de
Hans Landa, voilà.
Le méchant colonel SS dont d'ailleurs je trouve qu'il est le personnage le plus abouti et le plus réussi du film, mais ce qui est assez paradoxal, de voir que c'est le méchant qui devient entre guillemets le plus attachant, et c'est peut-être un des petits problèmes du film.
En même temps, c'est souvent ce qu'on dit, quand plus le méchant est bon, plus le film est réussi.
Mais il faudrait qu'en face il y ait un peu de répondant, et je trouve que les autres personnages étaient un peu palos par rapport au...
Celui-là. Notamment Brad Pitt, il interprète très bien son rôle, et on voit qu'un peu comme dans Burn After Reading, il reste sur vraiment un axe d'interprétation où dans Burn After Reading, il jouait une espèce d'abruti, quoi, pour faire simple, qui avait plein de mimiques, machin, dont il se séparait jamais. Là, c'est un espèce de vieux de la vieille, un lieutenant des forces américaines, donc qui plus est,
ancien trafiquant d'alcool.
Oui. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui est vachement intéressant dans ce film, dans le sens où il y a vraiment Tarantino ouvre beaucoup de portes, quoi. C'est vrai qu'il y a toute une mythologie presque qui est liée à son film, où la séquence des bastards, on va voir par exemple certains personnages secondaires qui vont être vraiment présentés pendant cette séquence là notamment
le sergent Hugo
Stiglitz. Et là vraiment le style Kill Bill, quoi, avec sur au moment où le personnage apparaît, il va y avoir un ralenti, un arrêt sur image, et puis en surimpression, son nom qui va apparaître massivement. Ça c'est les procédés que qu'aime bien employer Tarantino. Mais voilà, donc tous ces personnages vont être quand même présentés un minimum. Bon, pas tous, c'est ça aussi c'est peut-être un peu le problème, contrairement peut-être à d'autres films où il brossait un peu plus l'étendue de ce qu'il avait sous le coude, quoi. Ça reste quelque chose de vraiment bien.
Mais c'est vrai que là, comme tu disais, en fait, la scène d'entrée présente bien le personnage, finalement un peu le personnage principal, enfin du moins un des personnages principaux. Et il faut avouer que son jeu, il est vraiment vraiment abouti, quoi. Comme tu disais, Thierry, il a ce côté très sympathique, caricatural presque. Il force le respect, la politesse. Ouais, ouais. Voilà, et et il en use, il en abuse pour arriver là où il veut. Enfin, c'est plutôt en plus, enfin, c'est le mérite de Tarantino souvent dans ses films. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, mais il fait des scènes souvent à rallonge. Enfin, des scènes séquences là où c'est bon, bah c'est assez long. Il y a des longs dialogues et eh ben, ce long dialogue du début, il est. Enfin, moi, j'ai eu des avis avant d'aller voir le film, comme quoi c'était un peu longué, tout ça. Bah, très honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était c'est très judicieux et ça, c'était captivant, quoi. C'était vraiment captivant.
Ça a vraiment une force. Grâce à cette scène, en fait, qu'on est accroché directement.
Ouais.
Et
ouais.
Alors, voilà. Donc, toi, Thierry, t'es pas d'accord avec moi à ce niveau-là, dans le sens où justement, les deux premiers chapitres sont les plus huilés, quoi. Et que, enfin, pour moi, même si le reste vraiment regardable largement et c'est quand même bien fichu, on perd un peu de cette patate, quoi, qui anime les deux, qui caractérise, quoi, ces deux premières.
Tout dépend des choix que Tarantino a fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné l'absence de respect de ce film pour la véracité historique, je me suis dit qu'il eût été plus judicieux d'aller plus loin, peut-être, dans la déconnade et de mettre un peu plus d'humour. Alors, de l'humour, il y en a dans ce film. Mais il est beaucoup plus présent dans les trois dernières parties du film. Et
c'est vrai,
tant qu'à faire, autant y aller à fond de ce côté-là. On a l'impression que Tarantino a un peu le cul entre deux chaises, entre un côté un peu cérébral à la Jackie Brown, on va dire, et un côté vraiment plus potache, façon Grindhouse. Et on ne sait pas trop lequel il veut assumer. Et étant donné ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où... Ou carrément, il a choisi de s'asseoir sur la vérité historique de complètement, façon complètement hallucinante. Autant y aller plus à fond dans la déconnade. Voilà, c'est ce que je pense.
Alors après, par contre, là, le film reste un Tarantino. C'est visible largement. Enfin, encore une fois, par rapport surtout, pour moi en tout cas, par ses premières séquences, on va avoir effectivement ces bavardages qui sont quand même bien fichus. On va avoir un surcadrage régulier. Encore une fois, parmi ces premiers chapitres, donc un surcadrage qui va être donc très récurrent. Et voilà. Et donc ça reste du Tarantino, de la touche de Tarantino. Et d'ailleurs, petit cadeau donc pour nos auditeurs, en fait, là je vous propose en fait d'écouter un autre de ces dialogues issus d'un précédent film de Tarantino.
Salut les jeunes. Ça boum. Non, te dérange pas. Vous savez qui on est? Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Vous vous souvenez bien de monsieur Marcellus Wallace? Votre commanditaire? Attendez, laissez-moi deviner. Tu es Brett, c'est ça?
C'est ça.
J'en étais sûr. Tu n'oublies pas Marcellus Wallace, ton commanditaire, n'est-ce pas, Brett?
Non, je l'oublie pas.
À la bonne heure. On interrompt votre petit déj, c'est le danger de passer sans prévenir. Veuillez nous pardonner.
C'est quoi, au fait? Des hamburgers.
Des hamburgers? Sois judicieux, ça fait une nutrition parfaite.
Quel genre de hamburger? C'est le cheeseburger.
Non. D'où sortent-ils? McDonald's? Wendy Quick Burger? Ou...
C'est Big Kahuna Burger.
Big Kahuna Burger. C'est hawaïen, ce petit resto-là? Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Il faudrait que je m'en offre un de ces quatre.
Ils sont corrects.
Tu permets que je goûte? C'est le tien? Je peux?
Oui.
Mm-hmm. Ça, c'est un excellent hamburger. Vincent, tu connais les hamburgers de Big Kahuna? Tu veux goûter? C'est vachement bon, hein?
C'est pas fin.
Si t'es amateur, je te conseille de les essayer un jour. Moi, j'en achète rarement. Ma copine est végétarienne. Alors, pratiquement, je suis végétarien. Mais, de temps en temps, un bon hamburger, j'adore ça. Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France?
Non.
Dis-lui, Vincent.
Royal Cheese.
Royal Cheese. Et pourquoi? T'as une idée?
C'est peut-être le système métrique, je sais pas.
Mais c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, Brett. T'es très malin, mon enfoiré. Tout juste le système métrique. Il y a quoi là-dedans?
Du Sprite.
Du Sprite. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
Allez-y.
Ça fait du bien par où ça passe.
Toi, la mèche folle, tu sais pourquoi on est là? Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche.
C'est par là au fond.
Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con!
Écoutez, excusez-moi, j'ai pas saisi votre nom. Le vôtre, c'est Vincent. Oui, mais vous
êtes... Je m'appelle
Si tu crois t'en sortir, tu te fous le doigt dans l'œil.
Non, non, non. Je voudrais vous dire une chose. J'essayais de vous dire qu'on est désolé de la façon dont les choses ont merdé entre nous et Monsieur Wallace. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions, c'est vrai.
Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, là. Qu'est-ce que tu disais? Le coup est parti tout seul. Je t'en prie, continue. Où t'en étais? Je t'ai coupé la parole à meilleures intentions. Eh ben, qu'est-ce qu'il prend? Ah, t'avais fini! Alors, maintenant, à moi de rétorquer. Monsieur Marcellus Wallace, de quoi a-t-il l'air?
Quoi?
De quel pays tu sors?
Quoi?
Quoi? C'est ton pays, ça, quoi? Fais un effort! On parle quelle langue, à quoi?
Quoi?
La langue, bougre de fiotte! Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Oui!
Alors, tu comprends ce que je dis?
Oui!
Décris-moi Marcellus Wallace, hein? De quoi il a l'air?
Quoi?
Dis-quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis-quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir!
Marcellus!
Je t'écoute!
Il est noir, il est plutôt grand.
Et est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte?
Quoi?
Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte?
Non!
Alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett?
J'ai pas essayé!
Si, t'as essayé! Si? Oh que si, t'as essayé, Brett! T'as essayé de le baiser! Et il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace.
Voilà, donc une longue tirade de tirée donc de quel film, vous, j'imagine, vous le savez.
Pulp Fiction, voilà, Pulp Fiction.
Voilà, donc oui, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus en fait sur ce film? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont frappé, marqué, je sais pas. Parce que là, on est un peu pris par le temps aussi.
Non, j'aimerais juste faire une petite remarque sur le stéréotype, on va dire, de la confrontation entre le stratège allemand dans toute sa splendeur et le bon américain, le bon Yankee bien bourrin qui arrive finalement à avoir le dernier mot sur quelqu'un, un adversaire beaucoup plus intelligent que lui et qu'on retrouve un peu, ça m'a fait beaucoup penser à Die Hard, le numéro 1 et le numéro 3, où Bruce Willis, avec ses gros sabots, arrive à vaincre là aussi des Allemands plus machiavéliques que lui. Voilà, ce serait peut-être une thématique à explorer dans le cinéma américain, qui pourrait être pas mal.
Et pour ma part, le dernier petit mot que je voulais dire, donc, par rapport à ce film, moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, bon, ça reste un film divertissant, quoi, hein, voilà. Après, les prestations des différents comédiens sont bien, et à souligner la prestation de Auguste Dichel, qui joue le major Dieter Elstrom, d'une scène dans un bar qui est assez bien menée, où il y a une confrontation très 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 lente. Et
C'est l'officier de la Gestapo,
c'est ça. C'est ça, voilà.
Et qui est bien aussi dans le genre.
Ouais, très froid aussi. Ouais. C'est, pareil, cette espèce de politesse aussi excessive. Et cette scène, en fait, pour moi, elle symbolise un peu le film, dans le sens où c'est très bien monté, c'est bien rythmé, parce qu'il y a une très longue. Enfin, il y a pas une longueur, mais du moins, c'est très lent. Et après, il y a un espèce de coup de cravache où une plus petite séquence où ça s'accélère. Enfin, je ne veux pas vous raconter les détails parce que sinon, ce serait vous raconter un peu le film, ce serait dommage. Mais dans l'ensemble, bah voilà, le film est constitué de plein de petits moments comme ça où ça va très vite. Après, des moments très lents. Enfin, il est bien rythmé et il est très divertissant. Moi, j'ai passé un bon moment, je vous le conseille. Voilà.
Alors, ça va me permettre de rebondir, moi, sur juste mon impression rapide là-dessus. J'ai trouvé que Tarantino se répétait, en fait, depuis plusieurs films. Et il alterne, tu parles du rythme, il alterne des longues séquences très bavardes, des séquences très rapides. Et c'est devenu un peu une sorte de procédé, à mon avis.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc ça reste du bon cinéma, mais c'est vrai que Tarantino, il fait un petit peu la même chose là, depuis pas mal de films. C'est très bien, c'est très sympathique à regarder, c'est du bon divertissement de qualité, c'est pas du Michael Bay, quoi. Mais bon, ce serait pas mal qu'il se renouvelle aussi un petit peu, le père Tarantino.
C'est vrai qu'il cite beaucoup dans ses films. Là, celui-là, c'est aussi...
C'est aussi un film de bon élève d'études cinématographiques. Ouais. Il cite un peu toute sa filmographie chétif.
Fétiche.
C'est moi qui suis.
C'était beau.
Ouais. Chétif.
Lapsus révélateur, donc, pour le dernier film. Bon, qui est un peu chétif.
Après, il y a quand même une réflexion aussi sur le cinéma. Enfin, c'est pas pour rien que, on est face à un film, donc, qui est dans le film, une sorte de mise en abîme, où on se retrouve confronté à un film de propagande aussi sur, je sais pas, la signification que peut avoir le cinéma ou même, par extension, je dirais plus l'image. Je pense que c'est voilà, bon, Goebbels, c'était voilà pendant l'ère nazie, justement le chef de la propagande, un ministère créé exprès pour la propagande. Bon, le fait de noter ce point-là, moi je trouve ça assez pertinent, d'autant qu'après il se rattrape un peu en plaçant le cinéma sur quelque chose d'assez salvateur, puisque bah, c'est un peu grâce au cinéma que les méchants se retrouvent avec des bâtons dans les roues et qu'on arrive éventuellement vers quelque chose qui frise le dénouement de la guerre. Quoi. Donc voilà, je crois qu'il a quand même balancé des idées sur son amour du cinéma, c'est présent, et bon, ça vaut quand même le coup d'être vu. Quoi.
Disponible chez vos cinémas habituels en VO sous-titré au Diagonal et puis partout ailleurs en VF.
Oui, mais allez le voir en VO, parce qu'il parle quatre langues et je ne sais pas comment ils ont fait le doublage, mais les passages, tiens, on va passer à l'anglais maintenant, je maîtrise mieux l'anglais, hop, je parle un petit coup en allemand, je reprends le français. Enfin, ce serait vraiment dommage de le voir ça en VF.
Évidemment. Merci en tout cas aux participants à ce débat.
Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis, hein. Merci à Divergence.
On passe au dernier jour du monde, donc dernier film des frères Larieux, Jean-Marie et Arnaud. Les derniers jours du monde est une adaptation d'un roman de Dominique Noguès paru en 1991. C'est d'ailleurs la première fois que les deux frères adaptent un roman au cinéma. Alors remarqué pour La Brèche de Roland en 2000, un moyen-métrage qui se déroule aux abords de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, et qui dissèque les liens familiaux et générationnels sur fond de randonnée en altitude, avec Mathieu Amalric qui rejouera dans leur premier vrai long-métrage, Un homme, un vrai, en 2003, eh bien les frères ont repris quelques années après leur acteur fétiche, Amalric. Dans ses derniers jours du monde, interprète le rôle d'un homme adultère, Robinson, emporté par une passion, une femme androgyne qui le cueille à Biarritz et lui fait tourner la tête par ses apparitions, disparitions, le confronte décidément déjà à ce qu'il est, ce qu'il veut dans la vie. C'est sans doute le moteur du film qui va s'accélérer, le moteur à la faveur d'événements cataclysmiques. Alors le titre est très bien trouvé car des catastrophes s'abattent sur la France et pays alentours. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on en voit les conséquences et on écoute la bande-annonce pour se plonger dans cette ambiance.
Comme chaque été, on s'était installé chez mes parents pour une semaine. Tous les soirs, je me faufilais dans Biarritz désert pour aller la retrouver. J'étais comme un homme en cavale.
J'ai rêvé ou t'as pas dormi là?
Je suis tombé amoureux d'une fille. J'étais avec elle cette nuit. Et ce matin, elle était plus là, elle était partie avec ses bagages.
Faut s'attendre au pire, papa. Biarritz et la côte atlantique sont devenues des zones très dangereuses.
Je peux vous offrir un café? Avec ce qui se passe en ce moment, c'est trop bête de se croiser comme ça sans se parler.
On croit toujours qu'il existe un endroit protégé de tout, une île.
Vous allez où?
Oh, je ne sais plus. Le train m'a laissé là, ils ont fermé la gare.
J'ai besoin de savoir si Laetitia est morte ou vivante.
Suivre une femme ne mène pas forcément en enfer. Prends-moi au grand jour. J'ai passé ma vie à me cacher. C'est un signe de te rencontrer au moment où tout s'écroule.
Chloé, mon ex-femme.
C'est fou ce qu'on baisse quand ça va pas.
Partir, mais pour aller où?
Je sais pas. En Australie, sur des îles.
Je reste.
Toujours cette Laetitia. C'est fou. Comme les actes n'ont plus aucune conséquence.
La jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que les choses ne vont pas si mal que ça. Le monde est simplement en train de rajeunir.
Avec ces climats de fin du monde, les familles se retrouvent. Je croirais à Noël.
Et voilà, et on entend Sergi Lopez qui participe aussi au casting. Alors on l'a aussi entendu, c'est Amalric et son personnage Robinson qui raconte son histoire. Il est de tous les plans, du début à la fin, et dans deux temps précis, avant la mort de ses parents et pendant le cataclysme de fin du monde. Alors cette fin du monde qu'on voit à l'écran un coup, eh bien c'est une cendre qui tombe du ciel. Un autre coup, c'est un serveur qui tombe avec des convulsions, la bave aux lèvres, ou des hommes en combinaison jaune façon décontamination nucléaire qui fait son petit effet. Alors peu importe les causes de ces événements, n'en sera rien, et le film n'est pas un film d'anticipation. Ou pas précisément ça, mais plutôt un road movie dans des paysages aussi variés que la Côte Basque, les Pyrénées, Toulouse ou les gorges de quelque chose, peut-être du Tarn. Et plus ça va, plus on va vers la nature, on retourne dans les grottes pour s'y cacher ou les châteaux bien gardés. Alors, road movie entrecoupé de flashbacks, puisque Robinson décide d'écrire ses mémoires, son histoire, cette passion qui ne le quitte pas en cette fin du monde où chacun cherche quoi faire, avec qui et comment. Alors, si l'on voit quelques pillages dérisoires, l'essentiel du film évoque la peau, la chair, le désir, et au bout du compte, cette abstraction qu'est l'amour. Ambiance de stupre, vas-y, dis-le, Boris.
Stupre.
Bravo. Autour, oui, ça, c'est le seul private joke qu'on fera. Donc, ambiance de stupre autour de lâcheté diverse d'un homme qui plaque sa femme pour partir avec une beaucoup plus jeune, de courage de notre Robinson qui, sérieusement handicapé, traverse la France à pied, en mobylette, à vélo, en camping-car, et de désillusion pour un certain nombre de personnages dont on imagine qu'ils n'auront pas comblé leurs désirs et qui se suppriment avant l'échéance qui attend tout le monde. Puisque c'est répété à l'envi, tout le monde va y passer. On ne sait pas quand ni vraiment comment, mais l'issue est irrémédiable. Il faut donc imaginer ce road movie comme un film tour à tour léger et libertin, angoissant mais aussi drôle. Alors léger et libertin pour les corps qui finissent par se mettre nus. On retrouvera d'ailleurs une sorte de partouze à la Eyes Wide Shut lotoise, donc un peu au rabais. Une scène avortée d'homosexualité mais assez éloignée du traitement qu'aurait pu en faire un Alain Guiraudy comme dans Le Roi de l'évasion sorti cet été, puisque Guiraudy trouve que le cinéma français manque un peu de couilles. J'ai voulu mettre des couilles dans mon film. Angoissant car finalement... les images du cataclysme ambiant semblent plausibles. On pourrait imaginer que la fin du monde se passe comme ça, pas soudainement, mais dans l'enchaînement de plusieurs événements, avec un gouvernement qui, s'il ne s'installe pas à Bordeaux comme pendant la guerre de 71 ou de 14-18, ou à Vichy comme pendant l'occupation, le ferait à Toulouse, pourquoi pas. Alors, angoissant ces animaux qui prennent part au festin, comme ces vautours qui se délectent après un accident de la circulation. Et un film drôle aussi, parce que les frères Larieux aiment la distance avec leur sujet, un comique de situation, plus que de bons mots, de l'humour noir et du cynisme favorisé par une multitude de séquences avec de nombreux personnages. Alors le film, pour moi, est une belle réussite, bien rythmée, avec un savant mélange entre le film intimiste qui pose la question du sens de la vie et des actes, bon, c'est pas nouveau, et le film spectaculaire, mais pas tout à fait, parce qu'on n'a pas là une production hollywoodienne. Mais c'est peut-être dans l'économie de moyens que les frères Larieux tombent juste, peu importe les causes de la fin du monde, ce sont les destins individuels qui comptent. Les questions kantiennes sont encore présentes, que puis-je connaître, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer? Et on ajoutera ici, si le temps m'est compté.
Et dans quelle étagère aussi?
Oui, évidemment. Voilà, donc ce film passe en horaire décalé au Diagonal Capitole. Voilà, il ne repasse pas ensuite, j'ai été assez étonné, dans le réseau Utopia, visiblement. Voilà. Ainsi s'achève Cinérama, je crois, puisqu'on est déjà bien en retard.
Bah, peut-être juste un mot sur le seul événement de la semaine.
L'exposition au Diagonal d'un ami photographe.
Voilà, bon, déjà ça.
Et on n'en parle pas parce que c'est un ami.
Et sinon, vous avez samedi, vous allez me laisser faire quand même cet événement. Donc samedi 12, à 22h, vous avez le Concrete Video Street Challenge qui se pose...
Ça c'est bon ça pour les skateurs.
Le Concrete Video Street Challenge qui se pose au Diagonal. Donc c'est une sorte de petit défi, 5 teams de skateurs qui filment la meilleure vidéo de skate, et c'est projeté au Diagonal, donc samedi à 22h, et c'est surtout parce qu'il y a un apéro après que je vous en parle.
Mais ça voilà. Tombe bien parce que Thierry lui s'est mis au roller depuis peu.
Moi je me suis mis à l'apéro mais
voilà, c'était la première, hein, donc
un petit
démarrage, il faut se remettre dans le bain. On remercie quand même Manu qui nous a rejoint à la technique pendant le courant de cette émission, qui avait commencé sans personne. Et on réécoutera la bande, mais je pense qu'il y avait quelques imperfections. Voilà, mais sinon, dès la semaine prochaine, on retrouve un vrai technicien, une vraie régie, du début à la fin. Et on vous retrouvera, vous, chers auditeurs, voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Dis-moi un peu, ne feras-tu bonne chère?
Oui, si vous me donnez de l'argent.
Oh, que diable! Toujours de l'argent! Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche! De l'argent! Tu m'en parlais d'argent! Voilà leur épée de chevet, de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là!
Cinérama.
Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent!
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.